Radio Okapi. Le journal Jacques-Yves Molima. Les armées se sont tues depuis ce matin dans les collines de Tianjou et Ronyoni, occupées par les rebelles du M23, appuyées par les forces rwandaises. C'est ce que demande le Rwanda dans un communiqué. Toutefois, cette occupation est condamnée par le gouvernement congolais qui attend convoquer l'ambassadeur rwandais à Kinshasa. RDC Maroc à Casablanca au Maroc. Ce mardi, le coup d'envoi sera donné à 20h30 heure de Kinshasa. Ici au pays, les Congolais croient à la qualification car, disent-ils, tout est encore possible. Nous suivrons certains amoureux du football dans cette édition du journal. Enfin, notre invité dans cette édition, c'est Pichu Iribi. Il est le coordonnateur intérimaire de la task force dont 5 membres sont pris en otage depuis plus de 40 jours maintenant par la milice Codeco. Avec lui, nous parlerons des avancées réalisées dans les négociations avec le leadership de ce groupe armé pour la libération de ses otages. Voilà tout pour le sommet. Mesdames et messieurs, bonjour. Mais avant d'aller plus loin, tenez, la RDC vient de rejoindre officiellement la communauté des États de l'Afrique de l'Est, EAC. La décision a été annoncée ce mardi lors du 19e sommet extraordinaire des chefs d'État de l'EAC qui s'est déroulé en virtuel. La RDC rejoint dans la EAC le Burundi, le Kenya, le Rwanda, le Soudan du Sud, la Tanzanie et l'Ouganda. Les différents dirigeants qui ont pris la parole lors de ces sommets ont félicité le président Félix-Antoine Tshisekedi et le peuple congolais pour son adhésion à cette communauté dont l'objectif est la coopération économique régionale centrée sur les personnes et fondée sur l'économie de marché. Prenant la parole à son tour, Félix-Antoine Tshisekedi a proposé la création d'une nouvelle institution au sein de cette communauté qui aura comme mission de se pencher sur l'environnement, les ressources naturelles, les mines et l'énergie. Il a également suggéré que le siège de ce nouvel organe soit à Kinshasa. On l'écoute.
L'admission de la République démocratique du Congo à la communauté de l'Afrique de l'Est que nous célébrons aujourd'hui est sans doute l'aboutissement heureux de vos efforts personnels et l'expression d'une volonté commune des dirigeants de notre sous-région de bâtir une communauté d'hommes et de femmes solidaires et déterminés à partager un même destin. Le peuple congolais s'en réjouit et prend part par ma voix l'engagement solennel d'œuvrer de toutes ses forces pour le développement de l'Afrique de l'Est, notamment par l'optimisation de l'exploitation de nombreux atouts économiques de nos pays respectifs et des opportunités de coopération insuffisamment exploitées qu'ils offrent pour le bien-être de nos populations. Le peuple congolais, vous en saurez à jamais gré.
Avant l'adhésion de la RDC, la région de l'Afrique de l'Est couvrait une superficie de 1,8 million de kilomètres carrés avec une population de 132 millions. Nous l'avons dit au sommaire, au Nord Kivu, une accalmie s'observe ce mardi depuis le matin dans la région des collines de Tianjou et Runyoni après des combats violents hier lundi entre l'armée de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23. Les FARDC sont actuellement concentrés sur le pont de Rwanguba alors que les rebelles sont à Tiengerero, environ 4 km de Rwanguba. Le trafic routier entre Bunagana, Rutshuru, Goma reste coupé alors qu'à Rutshuru centre, Gabriel Wamenya, c'est la psychose qui gagne toute la cité ce matin, affirment les sources locales.
Les armées se sont tues depuis hier tard dans la soirée dans les zones des combats qui opposent les FARDC aux rebelles du M23. Les sources coutumières dans les groupements de Djomba affirment que les rebelles occupent actuellement la cité de Tiengerero et progresseraient vers les ponts de Rwanguba, une dizaine de kilomètres du chef-lieu du territoire et où sont actuellement concentrés les FARDC sur un autre front. La route ainsi que le trafic routier entre Bunagana et Rutshuru est coupé depuis hier. Les rebelles du M23 occupent la colline de Boussare qui surplombe la cité de Bunagana. La suspension du trafic routier entre Bunagana et le reste de la province a des conséquences sur le plan économique de toute la province. Cet axe d'intérêt international offre plusieurs opportunités aussi bien à la RDC qu'au pays du Comessa. La cité est pour le moment vidée de ses habitants et les soldats des FARDC qui y sont déployés sont coupés de leur base, précise les sources de la société civile de Rutshuru. À Rutshuru centre précisément, même que le trafic routier entre Goma, Rutshuru et le Grand Nord reste fluide et que la population vaque à ses occupations comme à l'accoutumée, la psychose d'une attaque imminente du chef lié du territoire gagne petit à petit les habitants, indique Jean-Claude Mbabaze. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Okapi.
Vous venez de les suivre, les communes stratégiques, les collines stratégiques situées au sud de l'agglomération frontière de Bunagana sont désormais occupées par les rebelles M23. Cette occupation, Bernardin Nyangui, donne des avantages aux rebelles pour leur progression vers les grands centres de ces territoires, estiment nombreux acteurs locaux.
Partie de la montagne volcanique de Sabine au triangle frontalier entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, en début de la semaine dernière, les rebelles du M23 ont occupé progressivement les collines de Kavangi-Kanyanja et puis Tchanzu et Runyoni, ce qui a forcé les habitants d'au moins 15 villages de la zone à fuir le milieu. Ces collines situées au sud de Bunagana donnent plus d'avantages à ces troupes rebelles, estiment nombreux acteurs du territoire de Rutshuru. D'une part, la rébellion a désormais un contrôle des frontières avec le Rwanda et l'Ouganda, mais aussi, dans cette zone, ils peuvent accéder facilement sur l'axe Kalengera-Tongo pour assurer sa connexion avec le territoire voisin de Masisi, plus à l'ouest. Il faut rappeler que Tchanzu, Runyoni et Mbuzi en particulier ont toujours été les coins de retraite et de prédilection pour les rebelles du M23 et ceux du centre d'épée de Laurent Kunda avant eux. En novembre 2013, après leur défaite à l'issue de l'opération Pomme Orange des FRDC, Sultani Makenga du M23 a décroché de ses collines de Runyoni, Tchanzu et Mbuzi pour fuir vers l'Ouganda avec ses 300 hommes, laissant sur place 300 tonnes d'armes lourdes et légères ainsi que des munitions qui avaient été récupérées par le gouvernement congolais. Goma, Bernard Nyangui, Radio Okapi.
Notons par ailleurs que d'après le porte-parole du gouvernement provincial du Nord Kivu, les rebelles du M23 ont bénéficié de l'appui des forces de défense rwandaises dans leur offensive. Cependant, le Rwanda rejette ces accusations. Sifamaguru, le Rwanda appelle au mécanisme conjoint de vérification à enquêter sur ces accusations.
Dans un communiqué rendu public hier même, lundi 28 mars, le gouverneur de la province de l'ouest du Rwanda, frontalière avec la ville de Goma, François Habitegeko, nie toute implication de l'armée rwandaise dans ces affrontements entre les FARDC et la M23. Il déclare que les RDF ne sont en aucun cas impliqués dans les activités belligérantes à travers la RDC. Réagissant au communiqué du porte-parole du gouverneur du Nord Kivu hier soir, son homologue de la province de l'ouest du Rwanda parle de fausses accusations et conteste même les deux noms qui ont été mentionnés comme des éléments de la RDF capturés au cours des affrontements. La RDC et le Rwanda disposent d'un mécanisme de vérification dans le cadre de la CIRGEL et au niveau bilatéral pour vérifier ces allégations, a conclu ce communiqué. Goma, Sifamaguru, Radio Okapi.
Face à tout cela, le ministre des Affaires étrangères de la RDC va convoquer l'ambassadeur du Rwanda en RDC pour fournir des explications sur la présence des militaires rwandais aux côtés des rebelles du M23 qui ont attaqué des positions des FARDC de Tchanzu et Runyoni dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu. C'est ce qu'a affirmé hier lundi le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya lors de son intervention sur le plateau de TV5 comme invité. Le gouvernement condamne aussi la nouvelle incursion du M23 à Tchanzu et Runyoni dans la province du Nord Kivu et dénonce l'hypocrisie du Rwanda, a indiqué le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya. Alors que les affrontements opposent depuis hier l'armée congolaise aux rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru au Nord Kivu, le commandant second des forces de la MONUSCO annonce que la mission onusienne apporte un appui au FRDC. Arrivé ce matin à Beni, le général Benoît Chavana parle notamment d'un partage d'informations. L'officier onusien fait également savoir qu'une base de la MONUSCO dans la zone de combat permet d'accueillir et de convoquer les personnes qui fuient les affrontements vers des secteurs plus sécurisés. Écoutez ces explications au micro de Joël Le Bouffet.
La situation est encore relativement confuse, comme toujours, quand il y a des affrontements, puisqu'il est difficile de préciser les positions des uns et des autres. Et pourtant, nous commençons à avoir une vision assez claire sur place, ce qui nous permet de remplir notre mission première, qui est celle de la protection des civils. La force de l'ONU n'est pas engagée directement au combat par rapport au M23, mais, et c'est dans le cadre de son mandat, elle agit en soutien des forces de sécurité congolaises. Il y a deux enjeux principaux. Le premier, c'est bien sûr la protection des civils, qui est le cœur cœur de notre mission. Et pour ce qui est de la zone des affrontements actuels, nous sommes présents sur une base importante au sud-ouest de Bounagana. Cette présence nous permet d'accueillir des populations civiles qui évidemment sont très déroutées. On a observé des mouvements de populations civiles. Nous avons déjà hier accueilli plusieurs groupes de personnes et en même temps, nous apportons notre soutien au FRDC. D'abord, un partage d'informations. Ensuite, nous apportons un appui logistique constant depuis longtemps déjà, en apportant des moyens de transport, des moyens d'évacuation sanitaire.
Pour sa part, Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, condamne avec la plus grande fermeté la nouvelle offensive de M23 et appelle à leur reddition immédiate et sans condition. Elle indique sur son compte Twitter que la MONUSCO se tient aux côtés du gouvernement et de la population congolaise. Autre nouvelle, au Kassai Oriental, retour à Lualaba ce dimanche de plus de 200 ménages qui avaient fui la répression et l'attaque armée du chef Ngoji, alias Tshingeleji, du groupement de Bakuachika dans le territoire de Dibelenge, au Kassai Central. Ces ménages constitués de plusieurs femmes et des enfants ont été conduits par le ministre provincial de la Santé et des Affaires humanitaires dans leur localité de Lualaba, secteur de Mukumbi, territoire de Lupatapata. D'après le ministre, le gouvernement provincial a réquisitionné un véhicule Kamaz de FRDC pour leur déplacement de Mbujimayi vers Lualaba. Une assistance humanitaire leur a été remise dans leur localité par l'envoyé du gouvernement provincial. Docteur Célestin Kadima rassure que le calme est revenu et que les éléments de la police et ceux des forces armées ont été déployés sur les lieux. Écoutons le docteur Célestin Kadima Lufuluabo, ministre provincial de la Santé et des Affaires humanitaires. J'entre au téléphone par Esther Ndalafina.
Le gouvernement provincial m'avait chargé, à ma qualité de ministre en charge des actions humanitaires et affaires sociales, pour accompagner ses concitoyens jusque chez eux à Lualaba. Ils étaient venus à pied, mais le gouvernement provincial a disponibilisé les moyens de transport. Nous les avons ainsi accompagnés jusqu'au niveau de Lualaba et nous les avons remis l'assistance et l'aide humanitaire que le gouvernement provincial avait disposée.
Manche retour des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 entre le Maroc et la RDC, c'est dans quelques heures au stade de Mohamed V de Casablanca. Les Congolais ont besoin d'une victoire d'un but à zéro ou d'un nul de 2 buts partout pour être qualifiés à la phase finale de la Coupe du Monde 48 ans après, soit depuis 1974 en Allemagne. Que faire pour battre l'équipe du Maroc et obtenir le billet du Qatar? Blaise Chindani a recueilli les avis des amoureux de football dans les rues de Kinshasa. Suivez.
J'espère que nous allons gagner les matchs, nous allons nous qualifier. Mais si j'étais à la place de l'entraîneur, je vais essayer un peu d'améliorer certaines choses. Parce qu'au match aller, on a vu que l'équipe a bien presté, mais il y avait quelques éléments à rectifier. Dieu merci Mbokani qui était en pointe de l'attaque, il n'était pas à mesure. On a vu que les axes centraux marocains étaient trop vifs par rapport à Bakambu. Bakambu a démontré qu'il était en pleine jambe, mais Mbokani était en dessous de la moyenne. Donc on peut utiliser un seul avant-centre et puis évoluer par 4-3-3. Qu'on utilise Meshak d'un côté et puis Wissa de l'autre.
Moi je pense que le match n'est pas si difficile que ça aussi. La défense, elle est bonne. Sauf qu'il faut juste changer Luindama, qu'il faut ajouter peut-être Tisserand. Et on a besoin de la vitesse de Kakuta et Meshak aussi. Avec ces deux, je pense que les Léopards feront un peu de miracle. Mais je pense qu'il n'y a pas de Qatar sans la RDC en tout cas.
Ce qu'ils n'ont pas pu faire au pays, mais qu'est-ce qu'ils vont faire au Maroc? Peut-être qu'il y aura un sursaut d'orgueil et tout, mais je suis un peu inquiet.
Nous avons une histoire avec cette équipe-là, donc nous l'avons déjà gagnée chez eux à plusieurs reprises. Donc c'est possible.
Élection de gouverneur dans 14 provinces de la RDC au Kassai Central. L'Association congolaise des droits de l'homme appelle les députés provinciaux à s'opposer à toute sollicitation qui est une vieille habitude caractérisée par les mots d'ordre. Ce président de cette structure a fait 7 mises au point hier lundi à Kananga face aux agitations constatées dans les regroupements politiques à l'approche de ces scrutins. Arthur Paddy Gangi estime que l'expérience des tickets n'a pas donné des résultats face aux attentes des populations jusqu'à ces jours. Un extrait de la déclaration sur des propos recueillis par François Kadima.
Il vous souviendra que la constitution de notre pays a bien voulu que les élections des gouverneurs comme celles des sénateurs se passent au suffrage universel indirect. C'est donc eux, les députés provinciaux, qui sont des grands électeurs et qui sont concernés par ces élections. Depuis 2006, le début du processus de démocratisation des institutions de la RDC, au Kasaï central, nous n'avons pas vécu la situation devenue un phénomène de tickets. Qu'à ce jour, il faut évaluer les tenants et les aboutissants de ces tickets. De manière objective, AC2 estime que l'expérience des tickets ne convainc pas, puisque n'ayant pas atteint les résultats escomptés, puisque nos députés ont privilégié les intérêts des mentors que de rencontrer les aspirations profondes de la population. De ce qui précède, l'AC2 voudrait que les députés provinciaux du Kasaï central surtout ne tiennent pas compte de cette sollicitation qui est des vieilles pratiques du régime passé, qu'à ce jour, il faut juger le gouverneur, le candidat gouverneur par ses actes que sur les mots d'ordre.
Actualité internationale.
Après la pluie vient le beau temps, dit-on. C'est en tout cas ce qu'espèrent les artistes africains après ces deux années durement marquées par la Covid. Deux longues années durant lesquelles de nombreux musiciens, chanteurs, rappeurs n'ont pas pu monter sur scène ou sortir de nouveaux albums. Après avoir dû s'adapter aux restrictions imposées par la crise sanitaire mondiale, c'est l'heure pour de nombreux artistes de reprendre leurs activités habituelles.
L'invité.
Nous recevons dans cette édition Pitu Iribi, coordonnateur intérimaire de la Task Force, dont 5 membres sont pris en otage depuis plus de 40 jours maintenant par la milice Codeco. Il nous parle des avancées réalisées dans les négociations avec le leadership de ce groupe armé pour la libération de ces otages. Il s'entretient donc avec Isaac Remoyope. Suivez.
Le coordonnateur intérimaire de la Task Force, Pitu Iribi, bonjour.
Bonjour.
Est-ce qu'il y a des avancées dans les processus de négociation pour obtenir la libération de cet otage? Car des rumeurs ont circulé le week-end qu'il serait déjà relâché et se trouverait à Bambou.
En tout cas, je demande d'abord formellement les dirigeants selon lesquels les otages sont libérés. Ils ne le sont pas. Le processus continue. Hier, il y a eu un temps, c'est Monseigneur l'évêque du diocèse de Bougne qui a été ici. Il a rencontré le chef militaire lui-même, le commandant en chef, celui qu'on appelle Il était accompagné de toute sa troupe. Il les a exhortés à cesser les hostilités, à libérer les otages et à s'inscrire au processus de la paix. Et après, le commandant secteur était en tournée. Et il a aussi rencontré Task Force d'abord pour nous encourager dans ce que nous sommes en train de faire. Mais aussi, cette même occasion lui a permis aussi de rencontrer Ndodja, qui l'a aussi appelé, invité à écouter la voix de la région. Voilà ce qui s'est passé hier. On a peut-être vu les mouvements de certains miliciens tout autour de la paroisse ici, où la Task Force négocie avec eux. Alors, les gens se sont versés dans des interprétations, mais je peux vous garantir que ils n'ont pas été libérés, mais ça ne saurait attendre. Le processus est en cours et nous nous approchons de plus en plus de l'objectif.
Un rassemblement des miliciens de la Codeco était observé le week-end vers Bambou. Peut-on parler déjà des processus de démobilisation de ces groupes armés, couplé avec celui des libérations d'otages?
Ça sera pratiquement les regroupements, la démobilisation, c'est la conséquence immédiate de la libération aussi des otages. Aussitôt que les otages vont être libérés, ces troupes vont évidemment se regrouper quelque part afin de commencer le processus de mobilisation. Et à ce titre d'ailleurs, il y a l'ONG FADEM qui est ici pour poursuivre justement la sensibilisation dans le cadre des processus préliminaires au processus de PDDRCS. Alors, la négociation, c'est la Task Force qui l'amène avec le groupe armé, avec CNRH à partir de Kinshasa.
Certaines opinions indiquent que plus de 1000 miliciens sont visibles autour des bambous. Est-ce toujours dans le cadre des négociations pour la libération des otages de la Task Force?
Les miliciens ne se sont pas regroupés. Les miliciens sont dans la région où ils résident. Ils ont été invités par la Task Force ici à Bambou Mine pour discuter des modalités de libération des otages. C'est à cette occasion que l'opinion a vu un nombre plus ou moins élevé, mais ce n'est pas un midi. À ce moment où nous parlons, ils ne sont plus. Ils sont rentrés. Ils étaient ici juste pour le processus de négociation. Nous avons négocié hier et pour le moment, ils sont rentrés.
Est-ce que le gouvernement est impliqué dans ces processus de DDRCS et les moyens sont-ils déjà disponibles et quel est votre apport comme équipe de la Task Force?
C'est un des mandats aussi de la Task Force. Nous y sommes évidemment impliqués depuis l'existence de la Task Force. Mais le devoir incombe surtout à la coordination nationale du PDDRCS. Il y a déjà un travail, un début de travail qui est déjà important, qui est en train d'être fait. Et nous y mêlons évidemment. Et par rapport aux moyens, par rapport aux dispositions prises, moi j'en sais pas grand chose. C'est vrai, il y a un engouement, mais aussi il faut qu'il y ait des moyens qui doivent immédiatement suivre, parce qu'on va plus attendre. Si il faut encore attendre une fois un mois, deux mois, ça va encore décourager beaucoup de volontés et les choses pourront encore en partir. Mais pour le moment, je pense que les dispositions sont prises par le PDDRCS.
C'est depuis plus de 40 jours que ces otages sont entre les mains de leurs ravisseurs. Chaque semaine, on espère à leur libération, mais à 20. L'opinion publique semble être impatiente et commence même à perdre de l'espoir. Quel message vous lancez à la population pour la rassurer?
Depuis 40 jours, nous ne dormons pas, nous nous battons jour et nuit pour convaincre ces gens à relâcher. Présentement là, nous sommes en train d'aller remettre la population à Kobu. C'était une de leurs revendications aussi. La population rentrera aujourd'hui à Kobu. Si vous remarquez bien, nous avons répondu à quelques-unes de leurs revendications, si pas la plupart. Maintenant là, nous attendons de leur côté aussi qu'ils puissent faire quoi? Rendre la société en libérant les otages. L'accord des principes est déjà donné pour la libération de tous les otages. Et nous attendons ce moment où nous allons célébrer cette liberté et nous pensons que ça sera pour bientôt.
Monsieur Pitu Iribi, je rappelle que vous êtes coordonnateur intérimaire de la Task Force. Je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Et c'est la fin de cette édition mise en onde par Dieudonné Nyangassa, coordonnée par Élisée Chikota sous la supervision de Alain Irung. Merci de nous avoir suivis.